Chapitre 4. Les loups du désert. Olga Vladislav remplit son gobelet incrusté de pierres précieuses, du vin écarlate d'une carafe d'or, et le fit glisser sur la table d'ébène vers Conan le Cimérien. Les vêtements d'Olgerd auraient pu satisfaire la vanité de n'importe quel hetman zaporoskien. Son kalat était de soie blanche, et des perles étaient cousues sur le devant. Ceinte à la taille d'une ceinture bacoriote, sa chemise était relevée, montrant ses larges chausses de soie, enfilées dans de petites bottes d'un délicat cuir vert, orné de fils d'or. Il portait un turban de soie verte, enroulé autour d'un casque pointu enchâssé d'or. Sa seule arme était une large lame tcherkesse incurvée, dans un fourreau d'ivoire qu'il portait haut sur sa hanche gauche à la manière des Cosaques. Se rejetant en arrière sur son siège doré gravé de figures d'aigle, Olgerd étendit devant lui ses pieds bottés et avala bruyamment son vin pétillant. À cette splendeur, le géant cimérien offrait un contraste saisissant, avec sa crinière noire coupée au carré, sa peau brune couturée de cicatrices et ses yeux bleus brillants. Il était vêtu d'une cotte de maille noire, et la seule partie de son costume qui brillait était la large boucle d'or de sa ceinture qui portait son épée dans son vieux fourreau de cuir. Ils étaient seuls dans la tente, qui était tendue de tapisseries finement ouvragées, et dont le sol était couvert de riches tapis et de coussins de velours, butin des attaques de caravanes. Au dehors, un murmure incessant se faisait entendre, celui qui accompagne toujours des hommes en grand nombre, dans un camp ou ailleurs. Parfois, le vent du désert faisait frémir les feuilles des palmiers. « Aujourd'hui dans l'ombre, demain au soleil !» cria Olgerd, desserrant quelque peu sa ceinture pourpre, et s'emparant à nouveau de la carafe de vin. « C'est la vie. Jadis, j'étais un hetman de la Zaporoska. Maintenant, je suis un chef du désert. Il y a 7 mois, tu te balançais sur une croix sous les murailles de Koran. Maintenant, tu es lieutenant de la plus puissante troupe de pillards entre Touran et les plaines de l'Ouest. Tu devrais m'en être reconnaissant. Pour savoir utiliser mes compétences ?» Conan rit et leva la carafe. « Quand tu permets à un homme de s'élever, on peut être certain que tu profiteras de cet avancement. J'ai mérité tout ce que j'ai obtenu, avec mon sang et avec ma sueur. » Il jeta un regard sur les cicatrices de ses paumes. Il y en avait aussi sur son corps, des cicatrices qui n'étaient pas là 7 mois auparavant. « Tu te bats comme un régiment de démons, » concéda Olgerd. « Mais ne t'imagine pas que cela a quelque chose à voir avec toutes ces recrues qui viennent se joindre à nous. S'ils viennent, c'est grâce au succès de nos raids, qui est dû à mon intelligence. Ces nomades recherchent toujours un chef victorieux à rejoindre, et ils ont plus confiance en un étranger qu'en un homme issu de leur sang. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. Nous avons maintenant 11 000 hommes. Dans un an, nous en aurons 3 fois plus. » Nous nous sommes contentés jusqu'ici de razzier les avant-postes touraniens et les cités-états de l'Ouest. Avec 30 ou 40 000 hommes, nous n'allons plus faire de raids. Nous allons envahir et conquérir et régner. Je serai empereur de Touchem et tu seras mon vizir, tant que tu continueras à exécuter mes ordres sans discuter. D'ici là, je crois que nous chevaucherons à l'est pour attaquer ce poste touranien de Vézek où les caravanes paient leur passage. Conan secoua la tête. Je ne pense pas, non. Olgerd, toujours prompt à s'irriter, le regarda fixement. Que veux-tu dire, tu ne penses pas? C'est moi qui pense pour cette armée. Cette troupe compte maintenant assez d'hommes pour le but que je me suis fixé, répondit le Cimérien. « Je suis fatigué d'attendre. J'ai une dette à régler. »« Oh !» Olgerd lui lança un regard noir, avala son vin et sourit. « Tu penses toujours à cette croix, hein? Eh bien, je n'ai rien contre une bonne haine, mais cela peut attendre. Une fois tu m'as dit que tu m'aiderais à prendre Coran, dit Conan. Oui, mais c'était avant que je commence à comprendre tout ce que pouvait nous apporter notre puissance, répondit Tolgerd. Je ne pensais qu'au butin que nous pourrions trouver dans la ville. Je ne veux pas gaspiller nos forces sans profit. Coran est encore un fruit hors de notre portée. Dans un an, peut-être. Dans la semaine, répondit Conan, d'une voix si ferme que le Cosaque le regarda attentivement. Écoute, dit Holgerd, même si j'étais d'accord pour envoyer des hommes pour un projet aussi risqué, qu'est-ce que tu espères? Penses-tu que ces ruffians seraient capables d'assiéger et de prendre une ville comme Coran? Il n'y aura pas de siège, répondit le Cimérien. Je sais comment attirer Constantius dans la plaine. Et alors, jura Holgerd, quand on échangera des flèches, nos cavaliers seront dominés, car les Achouris ont de meilleures armures, et lorsqu'on sortira les épées, leurs rangs bien organisés de soldats entraînés tailleront à travers nos lignes désorganisées et faucheront nos hommes comme des épis de blé. Pas s'il y a là 3000 cavaliers iboriens résolus, se battant en formation compacte comme je pourrais le leur enseigner, répondit Conan. Et où trouveras-tu ces 3000 iboriens? Demanda Holgerd d'un ton sarcastique. Les invoqueras-tu à partir de l'air? Mais je les ai déjà, répondit le Cimérien immuable. 3000 hommes de Coran campent à l'oasis d'Arkel, attendant mes ordres. Quoi? Holgerd lui lança un regard de loup acculé. Eh oui, des hommes qui ont fui la tyrannie de Constantius. La plupart ont vécu comme des hors-la-loi dans les déserts à l'est de Coran, et sont aussi affamés et désespérés que des tigres mangeurs d'hommes. Un seul d'entre eux vaudra autant que 3 mercenaires. L'oppression et la cruauté renforcent le cœur des hommes et allument dans leurs entrailles les feux de l'enfer. Ils étaient éparpillés en petites bandes, ils n'avaient besoin que d'un chef. Je leur ai fait porter des messages par mes cavaliers, ils m'ont fait confiance, se sont rassemblés à l'oasis et se tiennent à ma disposition. Et tout cela sans m'en avertir? Une lueur sauvage commençait à briller dans les yeux d'Holgerd. Il lança un regard vers le fourreau de son arme. C'est moi qu'il voulait suivre, pas toi. Et qu'as-tu promis à ces parias pour obtenir leur allégeance? La voix d'Holgerd était lourde de menaces. Je leur ai dit que j'utiliserais cette horde de bandits du désert pour les aider à détruire Constantius et rendre Coran à ses citoyens. « Pauvre fou !» siffla Holgerd. « Est-ce que tu te prends déjà pour le chef ?» Les deux hommes étaient debout, se faisant face devant la table d'ébène, les flammes des enfers dansant dans les froids yeux gris d'Holgerd, tandis que les lèvres de Conan dessinaient un sourire sinistre. « Je te ferai écarteler entre 4 palmiers, » dit calmement le Cosaque. « Appelle les hommes et ordonne-leur. » le défia Conan. Voyons s'ils t'obéissent. Retroussant les lèvres en grognant, Holgerd leva la main, puis s'arrêta. Quelque chose l'inquiétait dans la parfaite confiance qu'arborait le visage noir du Cimérien. Ses yeux devinrent incandescents comme ceux d'un loup. Espèce de racaille des collines, murmura-t-il. Aurais-tu cherché à saper mon pouvoir? « Je n'en ai pas eu besoin, » répondit Conan. « Tu avais tort quand tu as dit que je n'avais rien à voir avec l'arrivée des nouvelles recrues. J'avais tout à y voir, au contraire. Ils suivaient tes ordres, mais ils se battaient pour moi. Il n'y a pas de place pour 2 chefs chez les Ouagirs. Ils savent que je suis le plus fort. Je les comprends mieux que toi, et eux me comprennent mieux aussi, parce que je suis un barbare comme eux. Et que diront-ils quand tu leur demanderas de se battre pour les Coraniens? Demanda Holgerd, sardonique. Ils me suivront. Je leur ai promis une pleine caravane de l'or du palais. Coran acceptera de payer ce prix pour se débarrasser de Constantius. Et après, je les mènerai combattre les Touraniens comme tu l'avais prévu. Ils veulent du butin et ils combattront tout aussi bien Constantius que n'importe qui d'autre pour en avoir. Conan vit naître dans les yeux d'Holgerd la conscience de sa défaite. Tout à ses rêves de grandeur, il en avait oublié ce qui se passait autour de lui. Des événements et des circonstances qui lui avaient paru jusqu'ici sans importance lui revinrent à l'esprit avec leur véritable signification, et il sut que Conan ne fanfaronnait pas en vain. Le géant en côte de maille noire qui se tenait devant lui était le véritable chef des Ouaguir. « Sauf si tu meurs !» siffla Holgerd, et il lança la main vers son fourreau. Mais, aussi rapide qu'un chat sauvage, Conan lui attrapa le bras au-dessus de la table. Il y eut un bruit d'eau brisée, et pendant un instant de tension, aucun des deux ne bougea. Les deux hommes se tenaient face à face, aussi immobiles que des images, le front d'Holgerd transpirant abondamment. Conan se mit à rire, sans desserrer son étreinte autour du bras brisé. « Veux-tu vivre, Holgerd ?» Son sourire ne s'altéra pas tandis que ses muscles se tendaient comme des cordes le long de son avant-bras et que ses doigts s'enfonçaient dans la chair frémissante du Cosaque. On entendit le bruit des os brisés qui frottaient l'un sur l'autre, et le visage d'Holgerd prit une teinte de cendre. Le sang gouttait de ses lèvres qu'il mordait profondément, mais il ne fit entendre aucun son. Avec un rire, Conan le relâcha et le repoussa. Le Cosaque vacilla et se tint à la table avec sa main valide. « Je te laisse la vie, Holgerd, comme tu me la laissas jadis, » dit tranquillement Conan, « bien que ce fût seulement pour ton propre intérêt que tu me descendis de la croix. C'était une dure épreuve que celle que tu m'imposas alors. Tu n'aurais pu y survivre. Personne ne l'aurait pu, sauf un barbare de l'Ouest. Prends ton cheval et va-t'en. Il est attaché derrière la tente, avec des provisions et de l'eau dans les fontes. Personne ne te verra partir, mais fais vite. Il n'y a pas de place pour un chef déchu dans le désert. Si les guerriers te voient, déposé et estropié, ils ne te laisseront jamais quitter le camp en vie. » Holgerd ne répondit pas. Lentement, sans un mot, il se retourna et, d'un pas raide, traversa la tente et sortit. Toujours muet, il enfourcha le grand étalon blanc qui était attaché là, à l'ombre d'un palmier, et, muet encore, avec son bras cassé glissé dans son calate, il lança sa monture vers l'est et le grand désert, et ainsi il sortit de la vie des Ouaguir. Dans la tente, Conan finit la jarre de vin et se lécha les lèvres avec délectation. Jetant le récipient vide dans un coin, il mit sa ceinture et sortit par le devant de la tente, s'arrêtant un moment pour laisser errer son regard sur les alignements de tentes en poils de chameau qui s'étendaient devant lui, et sur les silhouettes vêtues de blanc qui s'affairaient, discutaient, chantaient et aiguisaient leurs tuloirs. Il fit alors entendre jusqu'aux plus lointains confins du campement sa voix de tonnerre. « Hé, chien, ouvrez les oreilles et écoutez-moi. Venez par ici, j'ai une histoire à vous raconter. »